exactement 7h50, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, BLVD Against le matin avec Jeff Fortin, Jacinthe Varel à la co-animation. Mathias Turcotte, notre gars aux news, est présentement avec le président du syndicat des employés d'entretien du RTC. C'était Point de presse, 7h30 devant le 720 des Rocailles. Il va nous revenir tout à l'heure avec des extraits et ses commentaires. Simplement vous rappeler que vous pouvez nous écouter sur l'application qui est disponible sur App Store, Google Play, au BLVD 102.1. Vous pouvez nous écouter également sur BLVD FM à la web radio. On est disponible sur twitch.tv/BLVD. /FM. Et vraiment, l'application, c'est la meilleure façon de nous suivre pendant tout l'été dans vos déplacements partout au Québec, au Canada et voire même aux États-Unis, si vous avez le goût d'aller faire un petit tour aux États-Unis. D'ailleurs, bonne fête aux Américains. C'est la fête des États-Unis aujourd'hui, en ce vendredi 4 juillet.
Y en a-tu qui descendent aux États-Unis ce soir?
Ça serait le fun de le savoir. Écrivez-nous 418-971-1021. Descendez-vous aux États-Unis où vous êtes comme... On mentionne dans les médias comme énormément de Québécois qui n'iront pas aux États-Unis cet été. Alors, allez-y, dites-nous-le si vous allez aux États-Unis ou non. Également, vous mentionnez que l'équipe du retour sera bel et bien sur la terrasse du Maurice Grand Allée cet après-midi. Hier, en raison des possibilités d'orages violents, ils sont demeurés en studio. Mais cet après-midi, Maxime Larouche, Reg Laplanche et Audrey Pinchot vont être présents sur Grand Allée. D'ailleurs, Max Larouche va venir nous parler un petit peu plus tard de ce qui s'en vient en fin de semaine au FEC et également de la soirée d'hier qui mettait notamment en vedette Rod Stewart. Vous rappelez aussi que pour les deux prochaines semaines, c'est-à-dire aujourd'hui et la semaine prochaine, de 11h à 14h, c'est Marceau et Pascal, le duo infernal qui est là le midi de 11h à 14h. Et après notre émission à 10h, il y a les meilleurs podcasts de Gravel dans le retour de 10h à 11h. Donc, c'est la programmation qu'on vous offre pour les deux prochaines semaines. Je sais qu'ils nous écoutent. Je sais qu'ils nous écoutent soit via la web radio ou l'application Boulevard 101. Il a écouté la dernière demi-heure. Il a dit « C'est bon, ça m'a mis dans le bain pour la conversation. » Et je parle de Marc Rangé, qui est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique et maintenant conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques. Marc Rangé, comment ça va? Je suis tellement content de te parler.
Hey, salut Jeff, ça va bien. Salut à toi et à toute l'équipe.
Hey, merci Marc. Marc, je commence avec une question d'un auditeur que j'ai trouvé tellement pertinente, Maxime de Québec. Il dit « Salut l'équipe, question pour Marc Rangé. » Le RTC est déficitaire. Combien? Parce qu'on parle énormément des employés du RTC, mais j'adore sa question parce qu'on se souvient que le RTC a terminé 9e sur 10 au niveau des audits de performance, notamment en raison qu'il y avait trop de personnel cadre dans l'organisation. Alors, combien de cadres ou de postes en trop et combien d'économies seraient faites justement si on réussissait à ramener le tout à un niveau équitable? Et il dit « Pour moi, 20 % sur 4 ans, c'est très bien dans le marché actuel. » Qu'est-ce que tu penses des deux questions de Maxime qui nous a envoyé ça par texto?
Oui, bien, c'est certain que quand on négocie, il faut toujours tenir compte du contexte. Hein, qu'on soit c'est pas parce qu'on est du côté syndical qu'on ne doit pas tenir compte du fait que les sociétés de transport sont en difficulté financière. Il y a une crise de financement. Dans le cas du RTC, certainement un ménage à faire au niveau de sa structure et de ses cadres aussi. Mais il faut en tenir compte de ça quand tu négocies, le fait que le financement est pas évident. Fait que ça, c'est certain que c'est un problème. L'autre volet de la question, Maxime, c'est?
L'autre volet, c'est 20 % sur 4 ans. Et est-ce qu'on devrait donner l'exemple en faisant un ménage dans le personnel cadre, personnel professionnel?
C'est sûr que le RTC devrait montrer l'exemple en disant, bon, ben il y a eu cette étude-là. On le voit qu'il y a trop de cadres. On va faire un effort de ce côté-là. On va prêcher par l'exemple. C'est un peu la situation à Montréal quand on a vu que la PDG là, de la Société de transport de Montréal gagne tout près d'un demi-million par année.
Oui, c'est ça. Hein?
Et puis, comme je disais, j'en ai pas contre le fait qu'à la tête des organisations, il faut bien rémunérer son monde, mais c'est certain qu'il y a un ménage à faire au niveau du taux d'encadrement. Et ça aiderait certainement dans les discussions. Maintenant, au niveau des augmentations du salaire, on l'a vu, là, à Québec, les augmentations de salaire, ce qui s'est donné au niveau des autres groupes, c'est entre 20 et 22 %. Donc, j'ai hâte de voir si c'est exact que le syndicat maintient toujours 30 % à la table de négociation. Mais si c'est le cas, ça montre une certaine déconnexion par rapport à ce qui peut se régler.
Oui.
Et si il y a certains...
Ben oui, parce que toi, Marc, là, tu nous as souvent parlé de ton expérience en tant que directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. si ta gang t'arrive dans le contexte avec une demande à 30 % sur 5 ans, puis que tu vois que ça s'est réglé entre 20 à 22 % puis que même les chauffeurs du RTC ont eu 18,5 sur 5 ans il y a de cela 2 ans, tu vas leur dire « Hey, gars, je n'irai pas à la guerre avec ça. »
Non, non, absolument. Ça, c'est le rôle du syndicat. Tu parlais un peu plus tôt la CSN Montréal versus Québec. Le rôle de la CSN, c'est de jouer un leadership là-dessus. C'est sûr que chacun des syndicats, fait que le syndicat de l'entretien à Québec, du RTC, peut bien dire aux représentants de la CSN, non, nous autres, là, regarde bien, là, on veut maintenir le cap pour telle ou telle raison. Ils peuvent prêcher qu'ils sont autonomes. Mais la job qu'on a à faire, moi, comme directeur québécois ou comme négociateur syndical pour le SFP, ma job, c'était de les brasser, c'était de dire non. Moi, c'est vrai que vous avez une certaine autonomie, mais ça n'a pas de bon sens, puis on perd de la crédibilité sur la place publique. Si on maintient des demandes salariales qui, à sa face même, on commence le premier jour de grève aujourd'hui. Fait que peut-être qu'à la table de négociation, ils ont cédé un peu de lousse sur le salaire, mais il aurait dû faire connaître sa place publique parce qu'on ne le sait pas. Puis à date, ce qui ressort comme information, c'est toujours qu'ils maintiennent le 30.
Ben moi, hier, on m'a dit au niveau du point de presse du RTC qu'on maintenait le 30 % sur 5 ans. On n'a pas voulu le dire au micro, mais off the record, on me l'a annoncé par la suite en me disant « Check les autocollants qui ont mis les autobus, puis tu vas voir que c'est les demandes qui tiennent encore. Les autocollants sur les autobus sont clairs. On veut 30 % sur 5 ans. » Qu'est-ce que tu penses de cette différence entre Montréal et Québec? T'sais, il me semble que je trouve que la CSN se tire dans le pied avec ça en privilégiant Montréal par rapport à Québec. Au niveau des services essentiels?
Oui, mais je pense pas qu'ils privilégient là. Bien franchement, c'est parce que à Montréal, du côté de la Société de transport de Montréal, il y avait déjà des décisions qui avaient été rendues pour dire dans le passé, suite à des conflits qui avaient été difficiles, que les conflits, l'arrêt du transport, du métro et des autobus, ça mettait en danger de façon imminente la santé et la sécurité de la population. Et donc, il y a des services essentiels qui avaient été ordonnés. Et comme la fin de semaine du Grand Prix, par exemple, c'est pas parce que le syndicat était beau joueur, c'est parce que le juge du tribunal administratif du travail leur a dit, le Grand Prix est sur une île, c'est un milieu qui est fermé. Moi, je considère qu'il y a un danger imminent. Entendez-vous pour offrir des services pendant la fin de semaine du Grand Prix? Et ils se sont entendus.
Oui, c'est le fameux critère de dangerosité que la RTC n'a pas là, et qui réclame là, du côté de Monde-Mercier-Larouche. Là.
Ben oui, puis à Québec, là, le juge qui s'était prononcé, Pierre-Étienne Morin, pour dire que c'était pas un service essentiel, il l'a répété là, un paragraphe, il dit « La seule question pertinente afin de déterminer si le tribunal doit ordonner au RTC et au syndicat de maintenir les services essentiels en cas de grève est l'identification d'un danger, d'une menace réelle, évidente, imminente pour la sécurité et la sécurité du public. » Et il avait conclu que ce n'était pas le cas. Par contre, ça veut pas dire. Il pourrait très bien, dans quelques jours, si la grève se maintient, le tribunal pourrait réintervenir à la demande du RTC face à des situations qui entraînent des dangers. C'est ce qui est arrivé au dernier conflit à Montréal, les métros avaient été, il y a une vingtaine d'années, métro fermé, autobus qui roulait, puis là, il y avait eu des situations d'agression envers des chauffeurs, des situations de tension, et là, le tribunal s'était penché sur cette question-là. Mais il y a quand même cette nuance-là à faire. Sur le fait qu'il y a déjà eu une décision qui a été faite. Puis le juge, dans le fond, à Québec, a dit, moi, la preuve que m'a présentée le RTC, l'employeur ne me démontre pas qu'il y a un danger imminent face à la population. Fait qu'est-ce que le RTC a bien fait de ses devoirs, c'est à voir. Puis l'autre question aussi, parce qu'on en parle un peu, est-ce que le syndicat, puis je sais que tu t'en venais probablement là, mais le syndicat, même s'il n'y a pas d'obligation, on en a parlé il y a quelques temps.
Ben oui, tu lis dans mes pensées, Marc, il me semble que le syndicat, pour garder l'opinion publique de son côté, aurait dû faire une proposition de service essentiel.
Absolument. C'est pas une position de faiblesse. C'est là où, comme rôle d'une organisation syndicale, moi, j'aurais tout fait pour les convaincre d'en offrir un minimum de services, pour montrer qu'on est bourgeois, pour montrer qu'on comprend les difficultés de la population. On a des demandes qui sont légitimes, mais en même temps, on ne veut pas nuire à la population. Parce que là, à un moment donné, à force de toujours attaquer la même plage, la même fenêtre, qui est le Festival d'été de Québec, puis encore là, Festival d'été de Québec, une affluence phénoménale pendant une période de temps qui est quand même assez courte. Je pense qu'il y avait quand même certaines démonstrations qui auraient pu être faites par rapport à la sécurité du public. Mais je me dis, le syndicat, certainement, qui serait donné un avantage de pouvoir offrir des services minimaux et faire en sorte de dire, regardez, nous autres, on ne veut pas nuire à la population. Fait que je suis quand même surpris que ce qui ressorte, première journée de grève, c'est qu'on n'ait pas entendu parler qui aient baissé leur demande salariale. Puis deuxièmement, qu'on dit, ben nous autres, c'est vrai qu'ils pourraient s'entendre à tout moment, mais que nous, on maintient l'avis de grève pendant 10 jours. Fait que je suis surpris.
Mais justement, parlons-en du fait que, puis cet avis de grève pendant 10 jours, il me semble que le rapport de force était à son apogée pour le syndicat, à l'approche du FEC. Et même, on est peut-être encore là aujourd'hui dans la première journée où son rapport de force est le meilleur, parce que la minute où on découvre ce soir que le FEC se déroule dans des circonstances tout de même acceptables et que les gens ont trouvé d'autres moyens de transport, que c'est pas le bordel, que tout est beau, c'est moins fluide, c'est pas optimal, mais malgré tout, ça se passe bien. Là, au fur et à mesure que les 10 journées du FEC vont se dérouler, le syndicat perd complètement toute la poigne qu'il pouvait peut-être avoir. Alors là, on se retrouvera pas bien rapidement dans une situation où le syndicat va être obligé de flancher puis de céder sur tout?
Oui, c'est un très bon point, parce qu'au fur et à mesure que le festival va avancer, s'il n'y a pas de règlement, le rapport de force va se minimiser, parce qu'après ça, l'employeur pourrait dire, ben nous, là, regarde, tough luck, tu veux continuer à faire la grève,
ben ouais.
Tu la feras la grève. Puis vous savez, un rapport de force, là, il y a bien des légendes urbaines là-dessus. Il ne s'exerce pas uniquement par l'exercice de la grève. Le rapport de force, c'est de savoir jouer avec le fait de dire, OK, je ne veux pas me tirer dans le pied, je vais montrer au niveau de l'opinion publique qu'on voilà. est capable de faire des pas.
Ah, que j'adore ce que tu dis, Marc Rangé.
Et ça, ça met de la pression inverse sur le RTC. Il faut être stratégique, il faut être intelligent dans tout ça. Puis ça fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde se disait, hey, c'est le fun, j'aime comment le syndicat agit. Ça donne un bien meilleur levier que d'avoir l'air d'être sourd-muet aveugle puis de continuer des moyens en se disant, on a le droit, on a le timing devant nous, puis on va le faire au maximum. Fait que c'est pour ça que je suis un peu surpris de ce côté-là. Fait que peut-être la différence, c'est en termes de leadership qui est exercé. Peut-être que le syndicat ne m'aura pas ce que je vais dire là, mais le leadership qui est exercé pour se dire, à un moment donné, est-ce qu'on se fait plaisir ou est-ce qu'on essaye d'arriver au meilleur règlement possible, par le meilleur chemin possible, puis ça peut vouloir dire de ne pas se mettre la population à dos.
Marc, c'est pas une information qui est confirmée, c'est une information qu'on reçoit à l'heure actuelle par texto, donc on va aller vérifier le tout. Mais semble-t-il qu'il y aurait eu 70 chauffeurs qui auraient été appelés par le RTC pour se tenir prêt pour sortir aujourd'hui. Donc, est-ce que le syndicat de l'entretien commence à sentir la soupe chaude?
Peut-être, mais on sait qu'ils négocient encore. Fait que là où il faut être prudent, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas une annonce positive dans la journée d'aujourd'hui par rapport à une possibilité de règlement ou demain. De voir est-ce qu'il y a eu une entente sur le fait d'offrir certains services ou autres. Tu sais, ça peut changer très, très rapidement là, la situation.
Est-ce que ça se fait du côté de l'employeur d'arriver maintenant puis de dire, savez-vous quoi? Le RTC est en déficit. Pour absorber le déficit, il a fallu qu'on quitte de l'argent au gouvernement du Québec. Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, a dit « C'est beau, je vais décaisser pour cette année, mais trouvez une façon d'absorber vos déficits. » Bruno Marchand a ajouté une taxe sur l'immatriculation de 60 $ pour absorber le déficit. Est-ce que ça se ferait à cette étape-ci pour l'employeur de dire « Savez-vous quoi? On sent que le syndicat n'est pas de bonne foi, nous place dans l'embarras, place toute la population de Québec dans l'embarras. On va s'asseoir ensemble, puis on va même aller plus loin dans la stratégie. Il faut trouver une façon de couper des postes pour arriver à l'équilibre budgétaire, pour aussi peut-être être capable d'assouplir le 60 $ pour les prochaines années, puis de ne pas avoir cette mesure-là de façon permanente sur les citoyens de la Ville de Québec. Est-ce qu'on pourrait devenir plus exigeant, puis carrément, là, du côté de l'employeur, dire, garde, là, on était de bonne foi, mais on est en train de complètement prendre en otage, puis se faire aller là, et prendre en otage la population de Québec?
Oui, mais le RTC veut pas non plus jeter de l'huile sur le feu. Par contre, c'est sûr qu'il y a un examen de conscience à faire. Fait que prendre la ligne dure au moment où un conflit est déclenché pour commencer à annoncer des coupures, ça va juste, je pense, aggraver le conflit. Par contre, puis j'entendais là, toutes les questions de temps supplémentaire. Moi, toute ma carrière, là, je me suis toujours battu, ça fait un peu drôle à dire, mais contre le temps supplémentaire. Ouais. Moi, je préférais qu'on crée de l'emploi puis qu'on soit pas là pour bonifier le salaire des gens avec l'overtime qui peut représenter jusqu'à 30, 35, 40 % de la paye. Ça demande du leadership des deux côtés. Quand le RTC dit qu'il veut couper le temps supplémentaire, le syndicat devrait être à l'écoute de ça, compte tenu des difficultés. puis de trouver des façons d'y arriver. Éviter ce que Jeff, tu disais un peu plus tôt, là, qu'à un moment donné, l'absentisme génère du temps supplémentaire qui est à un moment donné quasiment érigé en système. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut... Les deux parties, le syndicat doit être conscient que face aux problèmes de financement, il se tire dans le pied, là. Fait qu'il faut trouver des équilibres puis des ouvertures de ce côté-là.
Marc Ranger, chose certaine, c'est un dossier qui va continuer à faire couler beaucoup d'angles. Donc, j'ai ton numéro de téléphone pas loin pour la semaine prochaine. Ça te convient?
Tu m'appelles quand tu veux.
Yes! Toujours un plaisir, Marc, de te jaser. Je te remercie infiniment pour ta présence ce matin.
Merci.
Dans Boulevard Against le matin.
Grand plaisir. Salut à vous autres.
Salut, mon ami! Donc, c'était Marc Ranger. Je l'adore parce que il était du côté syndical. Veux-tu ces prises de position? Hey, 30 % pour 5 ans, ça n'a pas d'allure. Hey, voyons, c'est quoi cette affaire-là, un système de temps supplémentaire? Donc, je l'adore parce que il y a tellement une vision claire.
Bien, les meilleurs présidents syndicaux sont ceux qui sont capables d'être un excellent modérateur, comprendre la réalité des travailleurs sur le terrain, mais de comprendre les impératifs aussi de l'organisation, de rentabilité de l'entreprise, puis les impératifs aussi de la gestion.
Exactement.
Et quand on est capable de comprendre ces deux enjeux-là, on est un bien meilleur négociateur, plutôt que les braillards qui ont juste du chiolage puis des mesures de pression. Puis on a l'impression parfois là, d'avoir dans certains syndicats ou face à certains présidents de syndicats, on a l'impression d'être face à une espèce d'ado secondaire
non,
dans les
raison.
Revendications éternelles puis le braillage éternel. C'est pas ça. Les syndicats qui rendent le meilleur service à leurs syndiqués, c'est ceux qui se dotent d'un président là, qui est capable de faire la part des choses et qui comprend les impératifs des deux côtés.
Marc Ranger nous a déjà raconté qu'il disait hey, écoutez, j'ai des demandes complètement folles de ma gang. Fait que il allait voir l'employeur, et ça, que ce soit un employeur public ou privé. Puis il disait montre-moi tes livres. Montre-moi tes livres, là. Montre-moi tes colonnes de chiffres. Là. M'en aller brosser après ça à l'interne pour leur dire hey, guys, ça n'a pas d'allure. Puis les gens le faisaient parce qu'ils avaient confiance en lui.
Ouais.
Parce qu'ils savaient que Marc, son but, c'était d'en arriver à une entente. Puis une entente qui allait profiter aux deux parties. C'est ça, une négociation.
Ben oui, c'est ça.
Donc, les gens le faisaient, disaient, ben oui, regarde, OK, parfait, OK, on est en déficit de 10 millions, t'as une minute, m'en aller voir. Fait que c'est ça qui manque à l'heure actuelle. La RTC est en déficit de 50 millions. Et là, en passant, l'information qu'on a eue par texto n'est pas la bonne parce que Mathias était au point de presse du président du syndicat du RTC. Et malheureusement, il n'y a pas de date de négociation de prévue entre la partie patronale et syndicale.
Aïe, aïe.
Le syndicat dit on est ouvert à négocier. La partie patronale a dit la même affaire. Il y a un médiateur là-dedans. J'espère qu'on va recommencer à négocier aujourd'hui ou demain, s'il vous plaît. Là.
Non, mais honnêtement, moi, comme employeur, tu ne voulais pas m'avoir à une table de négociation du côté de l'employeur, mais moi, honnêtement, là, vous laissez aller le fait comme ça.
Moi, je suis comme toi, ça serait la ligne dure.
Je suis désolée pour les citoyens du Québec là, qui ont besoin d'avoir un moyen de transport, mais de toute façon, le dommage va être fait pendant les 10 prochains jours. Fait que je dirais, tu sais quoi?
Tellement d'accord avec toi. Moi, je dirais,
je suis plus pressée, là. Juillet, août,
moi, je dirais quoi? Ah ouais, tu veux faire ça?
Ouais.
Parfait, vas-y.
Ouais.
Plante-toi, mon ami. C'est exactement ce que je ferais.
Et, et je reviens sur ma solution d'hier aussi. Hein, les cadres sont peut-être en mesure d'assurer un service minimum, puis les chauffeurs reviennent au travail.
Oui, non, certains ça, cadres... ils n'ont pas les qualités techniques pour le faire. Je me suis informé hier.
Aucun cadre.
Quelques-uns, mais ça ne serait pas assez pour offrir un service décent.
Ouais.
Mais je reviens à ce que tu viens de dire. Laisse-la sécher.
Ouais. J'ai quand même de la misère à croire qu'on peut pas aller, mettons, dire la 800 va continuer de fonctionner. J'ai de la misère à comprendre comment on peut pas pas mettre une ligne en place.
Non, tu viens de le dire.
Ah ouais.
Laisse-les avoir l'opinion publique contre eux.
Ouais.
Tu viens de le dire.
Ouais, c'est ça.
Garde ça, je l'aimais, ce point-là.
OK.
Yes. On fait une pause et par la suite, on revient avec les principales manchettes à Québec. Et également, on va discuter du rapport du vérificateur général. Oui, oui, le huit lots commence à 8h15 et les 8h09, on va vous parler de tout ça parce que mon excellent collègue Taïb Moala du Journal de Québec a mis la main sur ce rapport du vérificateur général de la Ville de Québec. Boulevard 102.